Donc, ces rapports, donc ce que nous allons explorer maintenant, on va prendre un peu de recul par rapport à la question du thème pour voir un peu quels sont les rapports entre Barthes et la symétrie. Barthes, vous savez, a eu une carrière tortueuse, contournée, compliquée. Il a commencé des études de lettres à la Sorbonne, pendant lesquelles il a été extrêmement impliqué dans une compagnie étudiante de théâtre. Hein, il a été acteur, on a des photos de lui sur les pièces classiques de Sophocle, etc. Donc il s'est impliqué dans l'expérience dramaturgique. Il était parti pour un cursus de recherche, de faire une thèse de doctorat, mais il a eu des problèmes de santé. Et puis il y a eu la guerre. Hein, ce qui fait que ses études ont été interrompues. Et il a dû aller se faire soigner. Il a attrapé la tuberculose et il s'est fait soigner en sanatorium. Le sanatorium, ça, je n'ai peut-être pas besoin de vous expliquer, ce sont des lieux de réclusion. Des lieux de réclusion à la montagne où pendant des mois entiers, des années entières, il a fait plusieurs séjours en sanatorium, dont un de 2 ans tout de même. Vous vous rendez compte, quand on a 22 ans, rester 2 ans à ne rien faire, parce que c'est ça, hein, c'est respirer l'air de la montagne, c'est tout. Hein. Et là, son échappée, ça a été la lecture du roman. Hein, il a énormément lu. L'expérience du sanatorium, pour Barthes, ça a été le roman. Et on peut dire que ce qu'il a gardé de ces deux expériences, celle du théâtre, encore une fois, vécue hein, dans son corps, hein, d'abord celle du théâtre et celle du roman, c'est le goût pour la simulation. On pourrait dire la fiction, si vous préférez, mais la simulation, c'est un peu autre chose que la fiction, parce que simuler, c'est de l'ordre de du mouvement, de la pratique. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'une fiction, ça peut être quelque chose qu'on regarde, qu'on observe. Simuler quelque chose, ça implique un faire. Hein. Et il me semble que c'est bien ce goût pour la simulation qu'il a ensuite projeté sur l'ensemble, sur tous les aspects de la vie sociale et qui a été le démarrage de sa recherche, en particulier dans les mythologies. Les mythologies, c'est une projection de simulation, hein, de petits mythes, hein, d'introduire dans le quotidien des petits mythes, des mythologies qui sont autant de simulations d'une simulation qui mettait en scène un narrateur, un objet, une finalité, voyez. Bon, et c'est donc cette simulation, elle est soutenue par aussi bien par des discours que par des images, que par des comportements sociaux. Et où finalement le signe devient le mode d'apparaître du monde. Le monde n'est qu'une grande simulation, où il y a dans le monde ce qui fait sens dans le monde, ce sont les signes. Et voilà, donc c'est comme ça que moi je comprends le rapport profond, le rapport qui lie l'imaginaire du Barthes à la sémiologie. Hein, c'est qu'il y a là, dans sa formation et dans les accidents de sa vie aussi, le passage au sanatorium, un lien profond au signe. Au signe en tant qu'il est le mode d'apparaître même du monde et de son sens. Au cours Alors, de ce qui va devenir, malgré tout, sa carrière professionnelle, Barthes va rencontrer toute une série de disciplines. Il va rencontrer, effectivement, donc, des savoirs constitués et délimités sur des terrains. Quelles sont ces disciplines ? Eh bien, d'abord, la critique littéraire, avec le degré zéro d'écriture et le Michelet. Ensuite, la linguistique, avec peut-être les mythologies, mais aussi les éléments de sémiologie et bien d'autres. L'anthropologie, avec en particulier peut-être les mythologies, mais surtout le système de la mode. Hein, ou encore la sociologie. Donc il va rencontrer des disciplines. Mais, à chaque fois, ces disciplines nourrissent son discours, vont nourrir le discours critique de Barthes sans que lui-même ne devienne pour autant anthropologue, sociologue ou linguiste. Voilà. Et même le statut de littéraire ou de critique littéraire ne lui est pas facilement donné, puisque vous connaissez bien tous vous savez peut-être que après le livre de critique littéraire qu'il a écrit sur Racine, hein, qui s'intitulait Sur Racine, il y a eu une polémique extraordinaire avec Picard, qui était le racinien. Encore une fois, quand je dis racinien, c'est le terrain, c'est Racine, et il y a une discipline qui est la critique littéraire sur Racine. Hein. Et donc, le spécialiste de Racine a dit à Barthes, ce que vous faites, ça vaut rien, c'est n'importe quoi, c'est de la pure fantaisie. Donc on voit bien là que il était rejeté hors de la discipline qui était peut-être la plus naturelle pour lui, à savoir la critique littéraire. On le refoulait en dehors et il a dû s'expliquer, il s'est expliqué longuement dans un livre sur sa démarche, et ce livre s'appelle déjà « Critique et vérité ». Hein, c'était bien le problème de la vérité qui était au cœur de l'argumentation, encore une fois, parce que si le mode d'apparaître du monde, c'est le signe, où se loge la vérité ? Si le mode d'apparaître du monde, c'est la simulation, le théâtre, le roman, qu'est-ce que vous voulez faire d'une pseudo-vérité. D'accord ? Donc, bien sûr qu'il rencontre des disciplines dans son parcours, hein, mais il ne s'y arrête pas, il n'adhère pas, ça n'est pas lui. Il ne cherche pas à constituer sa recherche dans une discipline particulière. Et au fur et à mesure que son discours s'élabore, son discours contient des critiques à l'égard des disciplines. Il y a réellement, pour qui lit Barthes, pour qui veut lire Barthes sous cet angle, il y a une réflexion épistémologique longue et suivie chez Barthes. Ce qui fait, enfin, c'est une question qu'on m'a demandé, mais comment est-ce que tu peux aimer à la fois autant Roland Barthes et Louis Gemslev, eh bien, c'est parce qu'à mon avis, ce sont deux grands penseurs de l'épistémologie des sciences humaines. Et il y a bien, bien plus de compatibilité que d'incompatibilité entre leurs deux démarches, même si le discours qu'ils tiennent sont en apparence très très différents. La forme du discours est très différente. Eh bien, et dans ce parcours, il me semble que la sémiologie est ce qui indique ce parcours de recherche. Donc, voilà le rapport que je donnerais entre la sémiologie, la sémiotique et Barthes, c'est que la sémiologie, elle indique un parcours. Qu'est-ce que ça veut dire indiquer un parcours ? Ça veut dire qu'elle énonce un programme de savoir. La sémiologie permet d'énoncer un programme de savoir qui concerne quoi ? La vie des signes au sein de la vie sociale. Mais ce parcours, elle ne fait que l'indiquer et non pas à l'instituer. C'est-à-dire, ça n'est pas possible de constituer un objet qui serait la vie des signes au sein d'un terrain qui serait la vie sociale. C'est pas disciplinaire parce qu'il n'y a pas de démarcation. C'est trop large. Le terrain est trop large et le signe lui-même, on le sait bien, il est au moins duel. Hein. Il n'a pas de constitution propre. Hein. Donc il n'y a pas d'institution, de constitution. Ce rapport entre la recherche de Barthes dans son parcours et la sémiologie, Barthes lui-même va la thématiser, va y réfléchir, va la commenter dans justement la leçon inaugurale au Collège de France. C'est-à-dire que, vous savez, Barthes a eu au moins deux, hein, en fait beaucoup plus que ça, mais il y a eu au moins deux moments dans sa vie où il a fait retour sur son propre travail, sur sa propre vie. C'est le Roland Barthes par Roland Barthes qui a été publié en 1975, et cette leçon, ça s'appelle comme ça, leçon, qui a été publiée au tout début de 1978 et qui avait été prononcée juste un an auparavant, le 6 janvier, je crois, 1977. Hein? Et donc, dans cette leçon, qui est donc la leçon inaugurale au Collège de France, Barthes s'explique sur sa conception de la sémiologie. Et quelle est la conception de Barthes de la sémiologie? Il dit, enfin, la chair qu'il va occuper, la chair d'enseignement qu'il va occuper, est celle d'une sémiologie littéraire. Alors, cette sémiologie, tout de suite, il va marquer ses distances par rapport à ce qu'il appelle une sémiologie positive. Et la sémiologie positive, eh bien, c'est précisément celle qui s'est instituée et disciplinarisée. C'est celle qui, au fur et à mesure que la recherche s'organisait, a conduit à produire une méthode. La méthode sémiotique. Hein. Démarcation par rapport à cette sémiologie-là, sémiologie positive. Et on voit bien ce que positive, il faut l'entendre dans un sens positiviste. Hein. C'est celle qui croit en une connaissance que l'on peut affirmer explicitement et qu'on peut aussi surtout objectiver, c'est-à-dire mettre à distance de soi. D'accord ? Au contraire, sa conception de la sémiologie, c'est une sémiologie qu'il dit négative, c'est-à-dire que cette sémiologie-là ne constitue pas d'objet. Elle n'a pas de domaine. Il n'y a pas d'objet sémiologique. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est comme ça qu'on comprend le neutre, ou plutôt le désir de neutre. Même dans le cadre d'un cours, il ne s'agit pas de dire « mon objet, c'est voilà ce que je vous enseigne, c'est le neutre », parce que le neutre, c'est un objet. Hein. Il y a un risque d'en faire un objet. Ah non, non. S'il faut dire plus précisément les choses, c'est le désir de neutre que j'enseigne. Et ça, ce n'est pas objectivable. Ça n'est pas positivisable. Il n'y a pas de méthode possible pour rendre compte du désir de neutre. Mais elle est aussi, dit-il, apophatique, là aussi, terme, c'est un néologisme de sa part. Enfin, néologisme, en fait, c'est un terme qui est utilisé dans la littérature sur la mystique, hein, mais qu'il utilise donc, dans un sens plus plébéien, plus païen. Apophatique, il faut comprendre apo, donc fatigue, ben, ça c'est directement, ça fait référence à Jacobson, c'est la fonction fatigue, c'est-à-dire la fonction de communication. Et apo, c'est loin, une sémiologie qui est loin de la communication. Autrement dit, pour le dire autrement, qui n'a pas de méthode à transmettre. Ce qu'elle transmet, c'est pas... Il y a bien... Elle peut s'enseigner, peut-être, mais pas selon une méthode. Qu'est-ce qu'elle fait alors, cette sémiologie? Eh bien, elle fait miroiter les signes, scintiller les signes, pour en saisir les nuances ou les défauts. Et alors là, il y a quelque chose que Barthes va dire, non pas dans la leçon, mais dans le neutre. Il va dire quelque chose de très simple, mais que je trouve très beau. Il va dire, la littérature, c'est le codex des nuances. Et la sémiologie, c'est la vision ou l'écoute des nuances. Codex, ça fait référence à la Bible, mais aussi, enfin, en quelque sorte, à quelque chose d'institué, hein, de quelque chose à quoi on peut se référer. Hein. Mais d'habitude, quand on se réfère à des lois, le codex de la loi, hein, donc à des règles, à quelque chose justement qui est un référentiel. Or ici, il y a un oxymore, hein, puisque c'est le codex, mais seulement des nuances. Hein. On pourrait, hein, c'est voilà. Et les nuances, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que les nuances? Ben, ça a à voir avec le sens, mais le sens tel que toujours, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'objectiver, on ne peut pas le retenir dans une méthode. La nuance, c'est ce qui échappe précisément à la fixité. C'est ce qui toujours scintille, hein, dans une espèce de mouvement comme ça. Et si, et la sémiologie littéraire n'est pas la connaissance de ce codex, elle n'a pas même la littérature comme terrain. La sémiologie littéraire n'est pas une sémiologie de la littérature. Une sémiologie est littéraire si elle est une vision, une écoute des nuances. Et je pense que dans vision, il faut entendre autre chose que point de vue. Point de vue, encore une fois, c'est la méthode, hein, c'est la grille. Hein. Point de vue sûr, encore une fois, c'est mettre à distance. Il ne s'agit pas ici d'avoir un point de vue sur les nuances, il s'agit de les voir, il s'agit de les écouter. Hein. C'est donc, il y a vraiment entre la littérature et la sémiologie littéraire une interaction, un désir, un partage, hein, quelque chose, encore une fois, qui est quelque chose comme l'animation d'un imaginaire. Voilà la conception que Barthes défend, propose de la sémiologie. Elle est un œil, une oreille qui prélève des signes au sein de la vie sociale et culturelle, et cela, bien sûr, sans amoindrir leur variété et leur complexité. Il s'agit, encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il s'agit bien de nuances. Hein, la nuance, c'est ce qui est éminemment varié, en tant que tel. Si je voulais le dire d'une manière qui revient au thème, je dirais, la sémiologie est littéraire en ce qu'elle reconnaît les signes dans leur développement thématique. Reste la question de savoir si précisément... Est-ce que c'est bien là un savoir? Est-ce qu'on peut appeler ça un savoir? Est-ce que simplement la vision ou l'écoute des nuances, est-ce qu'on peut admettre, envisager de regarder cela comme un savoir? Pour le premier cours, le « Comment vivre ensemble », Roland Barthes avait donné un sous-titre. Il avait donné comme sous-titre, il disait « Simulation romanesque de quelques espaces quotidiens ». Je l'écris « Simulation romanesque de quelques espaces quotidiens », c'est ça ? C'est très étonnant tout de même qu'un savoir puisse, en tant que marqué comme genre, qu'il est une simulation romanesque. Mais encore une fois, on voit bien là que la sémiologie littéraire n'agit pas d'une autre manière que la littérature. La littérature, encore une fois, n'est pas un terrain, mais elle est, la sémiologie est littéraire elle-même. Et donc, pas de problème à dire que la sémiologie est romanesque. Mais ce qui importe surtout, c'est le terme de simulation. C'est le terme de simulation parce que le terme de simulation, il a quand même à voir avec la connaissance, en ce sens que c'est une mise en scène. Comme la connaissance met en scène un objet, hein, c'est-à-dire qu'elle l'organise, elle le présente, de la même manière, une simulation, c'est ça aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand je vous parle, je ne sais pas moi, d'un animal, ou que je n'ai pas besoin d'apporter l'animal. Hein ? Je le simule par le discours, avec des concepts, en l'analysant, etc. Donc par le langage, je peux faire une simulation de l'objet qui tient lieu de sa connaissance. Eh bien ici, il s'agit bien donc encore une fois d'une connaissance, au moins en ce sens-là, qu'elle le simule. Et elle le simule de manière romanesque. Et la simulation, du moins dans son acception technologique, c'est-à-dire quand on a une fin technologique, la simulation, c'est bien l'objectif d'une simulation, c'est bien l'étude, la démonstration, l'explication. Je vais vous montrer comment fonctionne. Tel appareil ou comment on fait du ski, je fais une simulation, ou par exemple pour l'espace, hein, qu'on fait les simulations de pilotage automatique des fusées, voilà, bon, ben, cette simulation-là, elle sert à quoi ? Elle sert à apprendre, hein, elle sert à acquérir un savoir-faire. D'accord ? C'est bien dans ce sens-là, c'est une simulation pour comprendre, pour se pénétrer du sens de la chose. D'accord ? Or, cette idée que il y a dans le romanesque quelque chose qui peut tenir lieu de connaissance, cela, Barthes l'a déjà dit dans la leçon. Il disait de la leçon, en effet, qu'elle a une force de connaissance. Je cite Barthes, « La troisième force de la littérature, sa force proprement sémiotique, sa force, donc la littérature n'est pas que sémiotique, mais donc il a parlé précédemment de mathésis et de mimésis, mais la troisième force, sa force proprement sémiotique, c'est de jouer les signes, plutôt que de les détruire, c'est de les mettre dans une machinerie de langage dont les crans d'arrêt et les verrous de sûreté ont sauté. Bref, c'est instituer au sein même de la langue servile une véritable hétéronomie des choses. » Je retiens ce terme de hétéronomie. Hétéronymie plutôt. Non ? Oui, hétéronymie. Mais hétéronomie n'aurait pas été mal non plus. Mais en l'occurrence ici, puisqu'il s'agit de langage, hétéronymie des choses. Et en retour, puisque la première force de la littérature, c'est d'être d'une mathésis, c'est-à-dire effectivement une forme de savoir, sa prise en charge dans un discours, une sémiologie littéraire, eh bien, elle a pour Non, pardon, là je suis en train de lire, il faut que j'arrête de lire, sinon ça ne va pas, mais c'est parce que je... Il faut me donner le temps alors de savoir quel est le fil de mon propre discours. Donc... Allez, excusez-moi, je me reprends. Donc, mon argument est le suivant maintenant. Il s'agit de dire donc la littérature est bien une forme de savoir. C'est une mathésis et en même temps c'est une sémiosis, c'est-à-dire que la forme de savoir qu'elle propose est concomitante d'une manière de jouer les signes. Et jouer les signes, ça ne veut pas dire de les déjouer, ça ne veut pas dire de les accuser, de les critiquer, c'est-à-dire mais plutôt de les simuler pour montrer en quoi précisément ils ne sont pas là au service de la vérité. Ils sont là au service du sens. La question maintenant est de savoir pourquoi a-t-on besoin d'une sémiologie littéraire si la littérature est déjà la forme de savoir qui joue les signes. En quoi a-t-on besoin de ce dédoublement? Qu'est-ce qui fait, qu'apporte la sémiologie en tant que vision ou écoute des nuances par rapport aux nuances elles-mêmes telles que n'importe quel lecteur peut les découvrir dans la littérature? Eh bien, ce qui va se passer, eh bien, précisément, c'est parce que la sémiologie va apporter cette forme de savoir-là dans un champ qui n'est pas celui de la littérature, dans le champ des disciplines, dans le champ des sciences disciplinaires. Et, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la sémiologie va pouvoir critiquer les autres disciplines ou de se confronter, de les concurrencer, mais elle va leur apporter un peu de jeu. Elle va jouer avec le savoir disciplinaire. Elle est cette chose qui... Alors que précisément les disciplines ont tout fait pour se mettre à distance de la littérature avec des modes de constitution, des modes de démarcation qui permettent d'objectiver les choses et donc de faire autre chose qu'un codex de nuances, la sémiotique va réintroduire au sein même de ce champ le jeu littéraire. Et effectivement, dans des formes qui, sinon acceptables, du moins qui permettent de pervertir en quelque sorte les démarcations et les constitutions disciplinaires. Ce qui revient à dire que peut-être le statut de la sémiotique est effectivement problématique, mais que c'est en ce sens-là qu'elle est bonne, qu'elle fait son travail. Elle ne fait son travail que si elle est problématique. Et pour être véritablement problématique, elle ne peut pas elle-même se constituer en tant que discipline. Ce qui, à mon avis... Mais là, c'est vraiment de la conversation de bar. Je n'ai pas écrit ça. Ce qui, à mon avis, n'est pas bien vu par les philosophes. Les philosophes ont beaucoup trop accepté accepté, encore une fois, on leur a donné une constitution disciplinaire, ce qui fait que la philosophie ne parvient pas réellement ne parvient plus à remplir son rôle. Si la sémiotique peut remplir son rôle, c'est à cause de ses difficultés. Et quand, encore une fois, dans les projets de recherche, etc., quand vous, en tant que vous appartenez à un département de linguistique, vous travaillez sur des images ou des chansons, ou quelquefois même, les commissions qui vous évaluent, vous dites « Mais attendez, là, en quoi est-ce que c'est de l'ordre de la linguistique ?» Eh bien, ces difficultés qui sont qui sont effectivement les vôtres, dans votre projet personnel, dans votre engagement, et en même temps, ce qui fait que la sémiotique réussit son projet. Du moins, est-ce une manière de la concevoir? Et c'est la manière dont Roland Barthes l'a conçue, avec les difficultés qui ont été les siennes. On peut dire qu'il a réussi, en fin de compte, puisqu'il est quand même parvenu au sommet de la carrière universitaire française, mais non sans avoir beaucoup louvoyé avant de parvenir au Collège de France. Donc c'est un, c'est un parcours à haut risque que celui de la sémiologie, en tout cas si on la conçoit, comme Roland Barthes, mais c'est peut-être la seule manière de la concevoir.
Vous avez tout de suite une petite question. Dans quelle mesure, à ton avis, si on essaie de comparer un petit peu l'époque où Roland Barthes se penchait sur ces problèmes, les années 70, et l'époque présente, dans quelle mesure c'est devenu plus difficile à vivre ou plus facile, à ton avis?
Comment?
Je me demandais, je ne sais pas, d'après toi, c'est devenu difficile dans notre cadre présent. Et puis, vu l'évolution qu'ont connue les universités un peu partout, puisqu'elles ont connu à peu près les mêmes évolutions.
Plus c'est difficile, mieux c'est. C'est ça. Et c'est un paradoxe, mais je crains que ce soit bien le nôtre. Si vous voulez faire une carrière tranquille à l'université, ne devenez pas sémioticien.
Ça, tout le monde le savait.
Mais il y a, encore une fois, beaucoup de plaisir à cette aventure. C'est un autre titre de posthume, mais qui était présent dans les écrits de Barthes, de l'aventure sémiologique, à l'aventure de la sémiologie. Il y a beaucoup de plaisir à pouvoir être touche à tout, à faire ce savoir qui n'est ni un savoir de synthèse, ni un savoir analytique, mais un savoir épars, fragmentaire, qui essaie de saisir et de faire partager la vie des signes par des simulations au sein de la vie sociale, parce que c'est un engagement de toute la personne. Autrement dit, bon, parce que je crois que je n'aurai pas le temps de parler de la chaleur, et ça Barthes le disait aussi, c'est que à chaque fois, pour chaque cours, la question c'est qu'est-ce que je vaux. C'est ça qui revient en jeu dans tenir un discours, c'est la valeur même du sujet. Le sujet enseignant, mais comme son enseignement, et ça n'est que son désir et son imaginaire propre qu'il met en jeu, la question est à chaque fois, qu'est-ce que je vaux? Et bien sûr, c'est très narcissique, mais c'est aussi, et donc ça peut être aussi très gratifiant de prendre ce risque et de voir que ce risque est tout de même peut-être reçu, peut-être poursuivi. Il y a ceux qui font les sports de l'extrême savent le plaisir que l'on a à se mettre en danger, à risquer. Je crois que le sémioticien a d'autant plus de valeur sociale et d'autant plus de plaisir lui-même que quand il se met en jeu, quand il risque sa recherche. Donc, alors aujourd'hui, je ne sais pas encore très bien exactement quelle est votre expérience, quelle est la situation brésilienne, mais il est certain que en France, en Belgique, l'institution de recherche et d'enseignement traverse une période de crise, de peur, et que dans cette période-là, les exigences, les demandes de constitution et de démarcation se font de plus en plus fortes. La recherche, et en particulier les instances de pouvoir de la recherche, demande de se rassurer constamment, qu'on rassure, c'est-à-dire pourquoi rassurer, parce qu'il faut constamment donner des preuves qu'on va dans le bon sens. Donner des preuves qu'on va dans le bon sens, c'est par exemple montrer que la recherche est en adéquation avec les demandes de la société ou avec des répercussions techniques, etc. Et que la recherche fondamentale, par exemple, est extrêmement visée, que ce soit dans le sens humain, mais en particulier dans les sciences, au contraire, dans les sciences de la vie, hein, dans les sciences formelles. La recherche fondamentale est problématique dans une période de crise. Et bien sûr, donc tous ceux qui sont qui ne sont pas, dont le rôle n'est pas clair, hein, sont en danger. Mais ce danger est en même temps un challenge merveilleux. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a besoin le plus d'eux pour jouer les signes, pour montrer que tout ça n'est pas l'ordre des choses, mais qu'il y a bien des enjeux, qu'il y a bien une vie des signes dans la vie sociale, que la vie sociale est régentée par les signes qui sont les nôtres. Et les mycémiciens ont ce savoir-faire que les autres ont moins que nous. C'est notre challenge. Nous devons relever le défi, chacun. Je ne sais pas. Et en même temps, alors voilà, le parcours de recherche de Barthes, je vous l'ai dit, il a été traversé de moments de crise, de moments de doute terribles. Ce n'est pas une vie facile que celle de Roland Barthes. Je pense que ça a été une belle vie, une vie qui valait la peine d'être vécue, mais ça n'a certainement pas été une vie facile. Et donc, il n'y a pas de prescription. Chacun fait avec ses propres forces, hein, et fait avec son disponible affectif, ses besoins, etc. Hein. Donc la question n'est pas « Ah oui, mais toi, c'est facile, tu peux le dire ça. » Parce que bon, c'est vrai, je peux le dire parce que j'ai un poste aussi qui est garanti, enfin, jusqu'à présent, hein, c'est un poste de recherche permanent au FNRS, c'est-à-dire dans une institution de recherche, mais pas une nécessité de cours. Et donc, mais c'est aussi mon propre danger d'exposer en disant Vive le n'importe quoi, libérez toute la recherche, alors que je suis déjà dans un poste, au contraire, sécurisé. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est des questions de position aussi, de statut. Hein. Le discours que je tiens, je ne prétends pas que vous, qui commencez à faire un doctorat ou qui terminez une maîtrise, vous devez aussi le tenir. Chacun fait en fonction de ses propres forces, hein, et joue. Encore une fois, il ne s'agit pas de déjouer, il ne s'agit pas d'être en dehors de la société, en dehors de la communication, mais de se tenir un peu loin. De ne pas participer aveuglément, hein, comme les singes, là, vous savez, ceux qui n'entendent pas, à cette peur et à ces désirs de limitation, de constitution, d'objectivation. C'est de rappeler aussi au monde de la recherche qu'il n'y a pas de recherche sans plaisir, sans désir. Voilà. Donc c'est une chance que la difficulté du monde actuel pour les sémiticiens, mais c'est aussi, bien évidemment, le risque, hein, un danger pour eux. Le risque qu'il faille, à un moment donné, quitter son désir, l'abandonner pour gagner sa vie, hein, tout simplement. Mais voilà. Je crains fort que ça. Encore une fois, là, donc mon avis est vraiment celui de Barthes. Je crains fort que les qu'une méthode sémiotique, l'application d'une méthode sémiotique ne peut donner à voir des choses intéressantes que sur la courte durée. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser une méthode, mais pour lâcher l'objet aussitôt qu'elle a produit son application. J'ai l'impression, ça c'était une autre manière de le dire, c'est que le sémiologue, le sémioticien, est un éclaireur parmi le savoir. Si on prend les chercheurs comme des guerriers, hein, des guerriers ou des colons, hein, qui colonisent le terrain de la recherche, eh bien, les sémioticiens, ce sont les défricheurs, les éclaireurs, ceux qui partent, hein, pour investiguer le terrain, tâtonner, vite fait, bien fait, faire un peu de méthode pour essayer d'établir les plans, et puis la grosse troupe vient et fait son travail. Le sémioticien, il a terminé, il va ailleurs. Son boulot, il ne tient pas en place. Et ça, on l'a vu, quand même. La sémiotique du cinéma, par exemple, la sémiotique du cinéma a donné véritablement une impulsion aux études cinématographiques, elle les a légitimées, etc. Mais aujourd'hui, la recherche en cinéma, ce n'est pas qu'elle n'a pas besoin de la sémiotique, c'est que la sémiotique n'est plus qu'un outil parmi d'autres, et il y a bien d'autres choses à faire. La constitution du cinéma comme objet de recherche n'est plus dépendante de la sémiotique. Mais la sémiotique a certainement aidé à cette constitution. Elle a fait en sorte de faire le premier défrichage qui a permis, par exemple, de montrer que le cinéma était une forme de langage. Et donc, il y avait bien des questions de sens qui pouvaient être rapportées à l'étude exactement comme les langues, ou que les textes littéraires. Donc, voilà. Je ne crois pas que les sémioticiens doivent aujourd'hui revendiquer ou regretter que la sémiotique du cinéma n'ait pas donné la suite qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire une constitution disciplinaire avec un département de recherche, beaucoup de budget, etc. Non, c'est pas comme ça qu'elle fera son travail, qu'elle fait son travail. C'est pas ça qu'on lui demande à la sémiotique.
Parlant un peu du manque de poésie, disons. Je crois que je comprends ce que tu dis à propos du travail, de l'idée de faire face au travail comme une aventure et ne pas abandonner le plaisir de faire une recherche. Je crois. On dit maintenant en Europe, d'après ce que j'ai entendu, je n'ai pas une grande expérience, mais que la sémiotique va très bien en Italie.
Elle va très bien en Italie.
Je suis allée au congrès de Telmo, qui avait un argumentaire fantastique, très intéressant. Et en arrivant là-bas, ce que j'ai vu, c'était des communications, l'une après l'autre, qui présentaient soit explicitement, évidemment, c'était pas que ça, mais c'était le ton le plus fort du congrès. Soit explicitement, soit d'une façon un peu, je sais pas si dissimulé ou pas explicite, simplement, le carré sémiotique et des analyses de soit des situations pour proposer une position du carré qui n'a pas encore été exploitée pour ce genre de produit, soit pour montrer que les publicités disponibles sont plutôt occupent une partie ou l'autre. Moi, après la fin du premier jour, je crois que j'ai cru que j'avais mal choisi les communications. Après le deuxième jour, j'ai cru que j'avais insisté dans le mauvais choix. Et le troisième jour, je me suis rendu compte que c'était ça le ton. Ce qui va bien, c'est qu'ils sont des soldats de la publicité. Et la sémiotique là-bas, je ne sais pas si elle va tellement faire que ça. Et pour ça, je te pose une petite question. Dans Entretien sémiotique, Paulo Fabri dit qu'il a préféré, ce sont à peu près ses mots, le béton, je ne sais pas, pardon.
Le béton.
De Grimace au sable
De Barthes.
De Barthes.
Mm-hmm. Bien. Alors, oui, c'est. Donc, en fait, c'est une déception. Tu as vu à la fois qu'il y a beaucoup de congrès en Italie, il y a une communauté très importante, il y a, chaque année, il y a un congrès sémiotique avec 100 personnes, alors qu'en France, effectivement, pour rassembler 50-100 personnes, quand tout va bien, tous les deux ans, bon, grâce au grand apport du Brésil, il y a. Bon, voilà, hein, donc en effet. Mais on pourrait le dire aussi des congrès internationaux. Hein. Quand on va dans ces grands congrès internationaux de sémiotique, je pense en particulier aux Américains qui font un congrès annuel de sémiotique par l'Association sémiotique américaine, ou par exemple du congrès en Chine. Mais j'ai aussi, personnellement, je reçois des demandes de doctorat, de postdoctorat, ou de collaboration avec toute une série de pays où la recherche est encore en émergence, disons, en développement, en particulier dans le monde arabe, en Iran, en Turquie, dans les pays du Maghreb, en particulier en Algérie. Effectivement, il y a une pauvreté théorique immense. Mais cela me fait penser à ce que Freud disait de l'analyse profane, dans un livre important qui s'appelle donc la question de l'analyse profane, où donc, Freud disait à qui appartient la psychanalyse, qui doit faire la psychanalyse, et lui, qui était un grand médecin, un médecin reconnu, hein, qui avait fait des études de psychiatrie, hein, disait non, le psychanalyse, on ne doit pas réserver l'activité psychanalytique à la disciplinarisation des médecins. Hein. Penseur même, encore une fois, donc c'est bien des questions de constitution, hein. Il disait, le penseur même, l'inventeur de la psychanalyse, ne voulait absolument pas que la psychanalyse se disciplinarise au sein de la médecine. Il ne souhaitait pas cette reconnaissance. Hein. Il disait, il est vital pour le projet psychanalytique que les profanes puissent devenir psychanalystes, hein, que des non-médecins puissent devenir, être psychanalystes. Je pense que c'est la même chose pour la sémiotique, que la sémiotique se nourrit de monsieur tout le monde, de ces ignorants de la sémiotique, qui effectivement, de ces, encore une fois, de ces gens qui lui apportent toutes ces choses. Bien sûr, ça va faire un savoir extrêmement décevant, bas. Qui est que celui des thèmes, un savoir qui n'a pas encore accédé à l'analyse, qui n'est pas de la conceptuelle, qui ne conceptualise peu ou mal, qui n'est pas non plus celui de la synthèse, hein, mais qui lui apporte des choses, qui brasse en fait toutes ces nuances, toutes ces choses dont les autres ne s'occupent pas. Hein, hein, et ça, c'est son vivier, c'est ça. Alors oui, c'est vrai que ça a quelque chose de décevant, hein, d'écouter toutes ces. Parce qu'encore une fois, c'est une situation aussi de paradoxe, si tu veux. Hein, la simulation romanesque au sein des disciplines est une situation paradoxale où il faut mimer, simuler un savoir peut-être avec des horizons de vérité, alors qu'en réalité, l'objectif est autre. L'objectif est d'abord d'amener ces sujets, ces thèmes, sur la scène du savoir. Et c'est ça qu'on entend dans ces congrès. C'est des gens qui nous parlent tout à coup de tous les objets de la vie quotidienne, de petites choses folkloriques, enfin, de toutes choses qu'on ne sait pas.
Là, et qui s'arrête là?
Ils s'arrêtent là pour le moment. Mais
non, mais je dis, si on fait l'analyse d'un objet, je n'ai pas de problème sur ça. Mais si on essaie d'extraire quelque chose de cette analyse pour
Alors, c'est ce que je disais avec Barre. Chaque enseignement, chaque recherche doit poser pour le scénificien la question de qu'est-ce que je vaux. Et en effet, probablement que au stade, on ne peut pas toujours gagner à cette question-là. On peut peut-être dire je ne vaux pas grand-chose. Aujourd'hui, je n'ai pas valu grand-chose. Je n'ai pas réussi à me faire entendre. Je n'ai pas réussi à communiquer mon désir, mon fantasme. Mais c'est la seule question qui importe pour le scénificien. C'est la seule question qui justifie l'élan de sa recherche. Mais on ne peut pas toujours gagner.
Ce que tu viens de dire, Seigneur, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais on dirait que ça rapproche ton dernier commentaire. Il pourrait rapprocher peut-être la position des études sémitiques et des cultural studies. Parce que tu viens de parler de...
Tout à fait.
Apporter un engagement de la personne, de l'énonciateur, apporter du sien, faire en sorte que ce soit un discours pris en charge. Sauf que dans les études culturelles, traditionnellement, on a affaire à des militants.
Oui, c'est ça.
Ce qui n'est pas le cas en sémitique.
Non. Voilà. Tout à fait. Donc il y a effectivement Donc, d'une part, oui, je pense en effet que les cultural studies ont les mêmes problèmes et le même intérêt épistémique que la sémiotique et que d'une certaine manière, le monde de la recherche, l'espace de la recherche, l'espace international de la recherche, se partage ces deux modes-là, à savoir la sémiologie. C'est pour le monde roman, Amérique latine comprise, et les cultural studies, comme son nom l'indique, c'est plutôt le monde anglo-saxon. Alors bien sûr, il y a des études culturelles au Brésil et comme en Belgique, il y a aussi de la sémiotique aux États-Unis, mais enfin, on voit bien qu'il y a des réseaux d'influence qui sont géographiquement localisés. Ensuite, effectivement, il y a un rapport de militantisme qui est différent, il y a un déplacement différent du militant, de la question militante, à savoir que les cultural studies sont politisés. L'engagement dans la vie sociale est un engagement communautaire, alors que l'engagement sémiotique est un engagement plus... Encore une fois, qui a peut-être plus à voir avec la psychanalyse, alors c'est l'engagement d'un sujet, de ses désirs. Alors, oui, c'est un être social, c'est bien le sujet social qui a des désirs et un imaginaire, mais enfin, la politique n'est pas son seul horizon. Il n'y a pas que les études culturelles, c'est aussi l'analyse du discours. Je pense que l'analyse du discours, quelles que soient les différences de méthode, c'est la même question. Je pense que l'analyse du discours, quand elle vaut quelque chose, se pose les mêmes questions que la sémiotique, mais encore une fois, avec des accents différents et des accents beaucoup plus politiques que celui... Oui, c'est ça. Que le sémiologue. Le sémiologue, et c'est pour ça, donc, c'est aussi la question du champ. Dans quel champ la sémiologie peut-elle se faire entendre? Est-ce bien dans le champ des sciences du langage? Ou est-ce dans le champ des études littéraires ou dans le champ des sciences de la communication? Bon, et il me semble que, en tout cas, par rapport à l'analyse du discours, la sémiologie est beaucoup plus proche de la littérature. Il y a dans ses aspirations, dans ce qui la nourrit, quelque chose de proprement littéraire. C'est d'abord un sémioticien, c'est d'abord quelqu'un qui... En fait, je vais dire autrement. Claude Coste a écrit un livre de Barthes qui s'appelle Moralité de Barthes. Moralité au pluriel de Barthes. Qu'est-ce que c'est que ces moralités? Ces moralités, c'est ce qui lie l'éthique à l'esthétique. C'est ce qui fait que le comportement, c'est-à-dire un mode d'agir, se règle sur un mode du percevoir, un mode du sentir. Hein? Donc, c'est ce qui règle l'articulation entre l'esthétique et l'éthique. Ce sont ça les mots, c'est ça les moralités. Hein? Donc voilà, par rapport à la analyse du discours et au cultural studies, mais surtout par rapport à l'analyse du discours, je pense que le sémiotien se pose beaucoup plus la question de l'esthétique, du lien, de l'origine esthétique du sens. Et l'esthétique au sens, encore une fois, pas, certes aussi au sens ornemental, rhétorique, la question du beau, mais pas seulement la question du beau, la question du sentir. D'où, par exemple, toutes les investigations de Fontani sur le corps, l'investigation de Zilberberg sur l'élan, le tempo, donc tout ce qui... Bref, le rapport entre la sémiologie et la phénoménologie. Il y a le sujet social tel que le perçoit le sémiologue, le sémioticien, il est engagé en fonction d'abord de ses désirs et de ses perceptions plutôt que en raison de visées politiques ou communautaires. Et ce qui fait aussi que l'analyse du discours n'a pas un souci analytique aussi grand que le sémioticien, parce que elle reste en surface. La politique, ce sont des effets de surface, alors que le sentir implique, enfin, je le dis avec mes gestes, mais un rapport sur la forme, justement, entre la forme et la surface. Hein? Des questions d'émergence. Ça vaudrait la peine de se remettre à un dialogue théorique, s'il est possible, avec l'analyse du discours. Il y a beaucoup de... Ça se fait
notamment. Non, je veux dire, ça vaudrait la peine au Brésil, notamment, vu, entre autres, le fait que l'analyse du discours au Brésil, au cours des décennies, a fini par prendre une place immense.
Voilà, le temps est passé, je n'avais pas de synthèse, hein, donc c'est parti un petit peu, on a résolu, comme va dire, on a déjà introduit à la table ronde de vendredi, hein, on a résolu les problèmes du monde en 5 minutes. Merci beaucoup pour votre présence et vos questions.